Nous vivons chacun dans notre monde. Notre propre univers est fait de centres d'intérêt, de métiers, de cultures, de langues, d'horizons, de passions, de religions, de pays, tellement différents. Nous recevons à chaque instant des centaines et des centaines d'informations que nous analysons et digérons par le prisme de notre expérience innée et acquise. Tout ce flux d'informations incessant bâtit notre patrimoine, dresse la vision que l'on se fait du monde. Même si nous avons les mêmes centres d'intérêt, le même métier, la même culture, la même langue, la même passion, le même pays, la même religion, notre expérience n'en demeure pas moins unique. La perception de toutes les données que nous recevons s'inscrit dans chacune de nos cellules comme une empreinte dont il n'existe aucune équivalence chez aucun autre être humain. Ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous ressentons s'apparente à un code complexe qui serait constitué de millions de chiffres et de symboles. Vraiment, aucune probabilité pour qu'une deuxième personne sur Terre ait un code similaire au vôtre. Donc, aucune probabilité pour que d'autres personnes sur 7 milliards d'individus perçoivent avec la même exactitude tout ce que vous pouvez percevoir, ce que vous pouvez ressentir avec le même degré d'intensité. Rendez-vous compte à quel point vous êtes unique, à quel point votre expérience est riche puisqu'elle ne ressemble à aucune autre. Vous allez dire, j'ai des amis avec lesquels nous pensons exactement la même chose. On a le même avis sur tel ou tel sujet. Nous sommes exactement les mêmes. Ma sœur jumelle et moi-même partageons les mêmes centres d'intérêt. Nous avons les mêmes goûts pour la mode, la même philosophie de vie et d'un point de vue culinaire, nous aimons les mêmes plats. Il y a évidemment des similitudes, des philosophies qui nous rassemblent, des dogmes, des patries, Dieu et parfois même des dieux. Nous partageons des états subtils d'harmonie. Une communion, un égrégore, où nous nous sentons vibrer au diapason. Pour certains, il suffira d'un stade, d'une équipe et du symbole qui va avec pour déclencher l'union sacrée. Pour d'autres, ce sera un concert où, l'espace de 2 heures, plusieurs milliers de personnes chantent et dansent sur les mêmes vibrations portées par la même énergie. Au cœur de nos relations personnelles, nous vivons parfois la rencontre ultime, la personne qui nous correspond parfaitement, celle qui comprend tout, qui partage tout, qui devance le moindre de nos désirs, comme si elle pensait à notre place. Ce merveilleux esprit complice que l'on appelle notre âme sœur. Je vous invite d'ailleurs à lire cet article que j'ai écrit sur ce sujet. Vous trouverez le lien dans cet article. Donc je vais vous aider à trouver votre âme sœur. Mais au-delà de tous ces atomes crochus, de ces belles alchimies, qui pourraient nous faire croire que l'autre ou les autres nous comprennent parfaitement, ou que nous les comprenons parfaitement, persiste notre monde, qui n'est pas du tout celui de notre âme sœur, de notre jumeau, de notre compatriote de stade, de concert, ou de je ne sais quelle autre passion partagée. Mon frère sait tout de moi. Je ne cache rien à mon mari. Oui, ton frère ou ton mari ont bien entendu tout ce que tu leur as dit. Probablement. Après qu'ils en aient fait aussi leur interprétation. Tout ce que tu leur as dit n'est pas tout. C'est loin d'être tout. Tes états de conscience successifs, toutes ces sensations fines, ces ressentis subtils, sont parfois impossibles à traduire par des mots. Toutes ces impressions, tous ces sentiments sont parfois même impossibles à comprendre. L'instinct les traduit, sans analyse, sans que l'on puisse véritablement comprendre ce qui s'est passé. Ainsi, ce que tu partages en pensant être parfaitement honnête est uniquement ce que tu as compris, peut-être aussi tout ce qui est acceptable pour toi, ce que tu penses être acceptable, ce que tu veux partager. De plus, comme je le dis un peu plus haut dans ce texte, l'information doit être traitée par le tamis des expériences de celui qui la reçoit, à travers la maille fine de ses jugements, de ses analyses corrompues par sa propre histoire. Il y a tellement de choses en nous que nous ne voyons pas ou que nous refusons de voir, tellement de déni, tellement de peur dont on ne parle jamais et surtout dont on ne se parle jamais. Pour résumer en une simple phrase, nous ne connaissons pas les autres et nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, ou si peu. Je partage avec vous un petit texte de Bernard Werber qui dit « Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que tu as envie d'entendre, ce que tu crois entendre, ce que tu entends, ce que tu as envie de comprendre, ce que tu crois comprendre, ce que tu comprends. Il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même. J'ai parfois entendu des individus, après une séparation, s'exprimer sur l'autre en disant « C'est incroyable, j'ai vécu 20 ans avec lui et finalement je ne le connaissais pas. » Nous sommes aussi quelquefois surpris de nos propres réactions. Nous ne savions pas à quel point, face à une situation particulière, nous étions capables de réagir ainsi, ou parfois de ne pas réagir du tout. Même les professionnels de la psychologie, les psychologues, psychiatres, spécialistes du développement personnel, psychoanalystes, psychospécialistes de tel ou tel comportement, en perdent leur latin. Vous connaissez, comme moi, des personnes de votre entourage qui suivent une psychothérapie régulière, chaque semaine, depuis des années, parfois même 20 ans. 20 ans d'analyse régulière. Comment est-ce possible ? La réponse est contenue dans la question. Les choses de l'esprit sont quasi impénétrables. Nous sondons en superficie, guère plus. Les psychothérapeutes font ce qu'ils peuvent, mais que peuvent-ils vraiment ? Parmi les psychoses les plus connues et certainement les plus répandues, j'en ai identifié 3. Je vous engage à lire les 3 articles qui leur correspondent, que vous trouverez en lien dans mon article. Il en ressort entre autres que l'on parle principalement de soigner, mais beaucoup moins de guérir. La schizophrénie, elle est celle qui est la plus connue du grand public. Sa prévalence, c'est-à-dire le nombre de cas recensés d'une maladie donc par rapport à l'ensemble d'une population à un moment donné, est autour d'1%, selon les différentes études internationales. C'est autant que pour le diabète insulino-dépendant. C'est énorme. Elle est classée par l'Organisation mondiale de la santé comme étant l'une des 10 maladies les plus invalidantes. L'anorexie mentale, c'est un trouble du comportement alimentaire essentiellement féminin qui apparaît le plus souvent à l'adolescence. Il entraîne une privation alimentaire stricte et volontaire pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Le pervers narcissique manipulateur, encore une autre maladie mentale terrible et dévastatrice pour l'entourage. Il est donc question de 3 psychoses graves, de problèmes mentaux sévères, dont la bibliographie scientifique est vaste et très renseignée. Les prises en charge sont, dans la plupart des cas, vraiment opérationnelles, extrêmement encadrées, appuyées par des traitements chimiques puissants. Et pourtant, Au vu des statistiques de guérison, les résultats sont loin d'être probants. C'est une évidence, nous comprenons très mal les choses de l'esprit, les déviances complexes, mais également les humeurs, les simples traits de caractère. Nous nous hâtons d'interpréter des comportements qui parfois sont surjoués, mal joués ou qui délibérément nous induisent en erreur. Nous prêtons des qualités à certains et des défauts effroyables à d'autres en ayant pour seul fondement notre jugement totalement erroné et soumis lui-même au diktat de nos tortures. Finalement, avons-nous pas la moindre idée de ce qui se trame dans le cerveau des autres et même, je le répète, dans le cerveau de vos proches? La conscience gruge constamment, vous gruge, elle vous manipule. Elle vous fait croire que vous êtes capable de ceci ou de cela, ou d'ailleurs tout aussi incapable de la même façon. Je m'intéresse aux choses de l'esprit depuis de nombreuses années, je m'interroge fondamentalement et j'analyse le monde qui m'entoure et ses comportements, ce qui m'a amené tout naturellement à m'intéresser à la spiritualité et à la physique quantique, des domaines qui s'entrecroisent et dont la frontière est bien fine. J'ai pu comprendre qu'à l'instar des expériences quantiques, l'expérimentateur crée sa propre expérience. Il crée à l'instant son propre monde. Ce que nous voyons n'a pas de commune mesure avec les 100 personnes qui verront le même phénomène au même moment. Nous pouvons faire preuve de compassion avec nos semblables, cela demande un travail conséquent, je vous l'accorde. Mais de là les comprendre, de là pénétrer leur univers et d'en faire une interprétation qui serait leur propre interprétation, là, non, je n'y crois pas un instant. C'est pour cette raison que la discorde, l'incompréhension, les oppositions, vouloir que l'autre change, soumettre les volontés, n'ont pas lieu d'être. Tout ceci n'est que peine perdue, monumentale et stupide dépense d'énergie que vous devriez consacrer avant tout à votre bien-être. Les accords reposent quasi systématiquement sur la compromission, probablement jamais sur l'unisson. Nous vivons chacun dans notre monde, construit de millions de briques que le ciment de nos croyances, de nos doutes, de nos exploits et de nos frustrations maintiennent en équilibre, quelquefois un peu précaire. Chaque individu possède ses propres briques, son propre assemblage, sa propre construction. Imposer de la déconstruire, ce serait la détruire. Ce que je vous explique vous semble logique. Prenez le temps de réfléchir avant d'agir.